Un temps pour Dieu pour nous bénir. Dieu a un temps pour envoyer sa bénédiction sur nous. Il y a des promesses, mais il a un temps pour les réaliser. On voit ça dans Galates chapitre 4, le verset 1 et 2. Galates chapitre 4, le verset 1 et 2, ça dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Un enfant a beau être le fils d'un millionnaire ou d'un roi, mais tant que l'enfant est encore un enfant, on ne lui donnera pas l'héritage. On ne lui distribuera pas les richesses de son père, parce que ça pourrait lui faire plus de mal que de bien, ça pourrait lui nuire. C'est pour cela que l'enfant doit grandir, maturer avant d'entrer en possession de l'héritage de son père. C'est cela qu'on retrouve ici comme image. Quand on vient au Seigneur, on a un héritage merveilleux. Dès le moment où l'on donne notre vie au Seigneur, il y a un trésor d'héritage, de richesse devant nous, des promesses extraordinaires. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, guériront les malades. Plein de promesses. Mais quand on donne notre vie au Seigneur, on est encore des bébés spirituels, on est des enfants. L'héritage est glorieux, certes, mais de la même façon qu'un parent ne laissera pas son enfant conduire son auto, si son enfant a juste 2 ans, par exemple, il ne peut pas conduire l'auto de son père. Même s'il est hérité d'un million de dollars, l'enfant, dans son jeune âge, ne peut pas en bénéficier. Ça prend un âge de maturité avant de pouvoir y donner l'héritage, pour que justement cet héritage-là soit vraiment une bénédiction pour lui et non pas une malédiction. C'est pour ça que dans notre vie spirituelle, nous devons aussi attendre de grandir, de maturer, de s'assagir avant que Dieu puisse nous distribuer l'héritage. L'héritage est là, la promesse est là, le salut en Jésus-Christ a été accompli à la croix, tout est accompli. Mais c'est comme si pour nous le distribuer, Dieu attend, le Père attend de voir dans notre cœur la maturité. C'est quoi la maturité? C'est de savoir bien utiliser avec sagesse ce qu'il veut nous donner. Comme par exemple, tu vas attendre au moins que ton jeune ait 16 ans avant de lui laisser conduire l'auto. Parce qu'avant ça, il n'a pas la maturité nécessaire pour le faire. Mais c'est la même chose avec les choses de Dieu. Dieu veut nous donner plein de promesses. Il a établi une parole, un logos sur chacun de nous, mais il attend qu'on mature en lui, qu'on devienne adulte. Plus juste des enfants ou des bébés, mais de vrais adultes matures. Avant de pouvoir nous partager son héritage, avant de nous communiquer, de nous faire participer à sa gloire. On voit aussi cela dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 13 et 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire un homme mature, plus juste un bébé ou un enfant ou un adolescent, mais un homme fait, c'est-à-dire un homme rendu mature, adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça fait qu'il y a une maturation que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner le caractère de Jésus. Imaginez, avant de nous donner la bénédiction que Jésus a pour nous autres, il faut qu'il établisse en nous le caractère de Jésus. Puis ça dit au verset 14, ainsi,
nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En professant la vérité dans l'amour. Vous savez, quand on vient au Seigneur, souvent on est zélé pour la vérité. Là, on vient d'apprendre que Jésus peut nous pardonner nos péchés, peut nous donner la vie éternelle. Puis là, on part avec cette vérité-là. Puis là, on veut que tout le monde soit sauvé. Puis là, on tape sur tout le monde avec la Bible. Puis on veut tous les emmener au Seigneur. Mais on a besoin de grandir en vérité et en amour. On a besoin de grandir avec l'amour dans notre cœur. Parce que l'amour, tu commences un bébé dans l'amour de Dieu, puis là tu grandis, tu apprends toujours de l'amour de Dieu, parce que c'est tellement grand l'amour de Dieu, c'est tellement grand son caractère d'amour, de serviteur, que si on reste juste des bébés, on aura beau avoir la vérité sur notre bouche, mais Dieu n'accomplira pas cette vérité-là. Dieu n'appuiera pas cette vérité-là par sa parole, parce que on manque de maturité, on manque d'amour en lui. Parce que la maturité amène l'amour, un amour vrai, un amour désintéressé, un amour qui n'est pas égoïste. Puis on voit que cette maturation-là, c'est ça que Dieu attend avant de nous déverser sur nous la promesse. La semaine passée, je prenais l'exemple de Joseph, qu'il a fallu qu'il attende 20 ans avant que la promesse que Dieu lui avait donnée se réalise. Joseph, Dieu lui avait promis, tu vas régner sur tes frères. Mais Joseph n'avait pas le caractère d'amour pour régner sur ses frères, parce que lui, il aurait régné comme un dictateur sur ses frères. Mais Dieu devait d'abord lui donner un caractère d'amour, un caractère de serviteur. Puis là, quand Joseph a grandi en amour, en sagesse, en maturité, là, il a pu hériter la promesse. Et la promesse que Dieu lui a donnée s'est accomplie, parce que là, il avait acquis, bonjour, il avait acquis le caractère de Jésus, le caractère d'amour qu'il avait en Dieu, le caractère de serviteur qu'il avait en Dieu. C'est ce caractère-là qui faisait que maintenant, Dieu disait, OK, maintenant, t'es prêt à ce que je te bénisse. Puis on voit même ça dans la vie de Jésus. Luc 2, verset 51. Jésus, qui était sans péché, avait lui aussi besoin de grandir. Luc 2, verset 51. Luc 2, le verset 51. On voit comment que même Jésus, le Fils de Dieu, qui est né sans péché, avait aussi besoin de grandir en sagesse, en stature devant Dieu. C'est-à-dire, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'on vient au Seigneur, on est encore juste des bébés spirituels, mais on a besoin de grandir en sagesse. On a besoin de grandir en stature spirituelle et en grâce devant Dieu. On a besoin de recevoir le caractère de Dieu, le caractère d'amour qui est en Dieu lui-même. Parce que sans ça, on ne pourra jamais hériter la promesse que Dieu a pour nous autres. La promesse que Dieu nous a dit, elle ne pourra jamais s'accomplir si on ne grandit pas en lui, par sa sagesse, par sa grâce, par son esprit.
Amen.
Alléluia. Il y a deux choses dans la maturité qu'il faut regarder. Il y a deux choses qui reviennent toujours, toujours dans la maturité qu'on a à grandir dans le Seigneur, la sagesse qu'on acquiert dans le Seigneur. Parce que pour bien, c'est comme si Dieu attend, avant de nous donner ses biens spirituels, son auto, toutes les choses qu'il veut nous donner. Il attend qu'on ait grandi puis qu'on ait acquis une certaine sagesse, qu'on soit devenu des bons, ça dit, administrateurs des biens spirituels. Quelqu'un qui va savoir gérer. Un bon administrateur, c'est celui qui sait gérer, qui sait bien gérer les biens spirituels. C'est quand on veut confier quelque chose, quand une compagnie veut confier un contremaître, par exemple, une compagnie, ben ça, ils choisissent un homme qui est capable d'administrer, bien gérer tout ce qui se passe dans la shop, dans l'industrie, puis qui est capable de voir à toutes les personnes, puis est capable les gérer, les administrer. Puis c'est la même chose que Dieu fait avec nous autres. Il veut nous établir comme des bons administrateurs, des bons gérants, des choses qu'il veut nous donner. Mais il y a deux qualités. Pour un bon administrateur, il y a deux qualités. On voit ça dans, premièrement, le discernement. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise, c'est de désirer ce qui ne nous appartient pas. Okay, le simple fait de désirer quelque chose n'est pas mal. Dieu a mis des désirs dans notre cœur. Mais quand on désire ce qui ne nous appartient pas, ça devient de la convoitise. Puis c'est la première qualité d'un bon gérant, d'un bon administrateur. Celui à qui Dieu va confier les choses, c'est celui qui sait, qui a appris, qui a discerné, qui a appris à discerner qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui lui appartient en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui nous appartient puis qu'est-ce qui ne nous appartient pas? Parce que la convoitise qui fait la guerre à l'âme, c'est tout ce qui ne nous appartient pas. Le diable met devant nous plein de choses, plein de choses, puis il nous donne de les désirer, mais ça ne nous appartient pas. Les seules choses qui nous appartiennent, c'est ce qui nous appartient en Dieu. C'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu veut nous donner. Ça nous appartient en Dieu. Mais le bon administrateur, il faut qu'il apprenne à discerner. C'est quoi qui m'appartient en tant que serviteur de Dieu? C'est quoi qui m'appartient? Puis ce qui ne m'appartient pas. Puis ce qui ne nous appartient pas, ben, on met ça de côté. Parce que c'est une guerre. Ça dit que c'est une guerre à l'âme. La convoitise fait la guerre à l'âme. Le diable, il met plein de choses. Puis là, il nous fait attiser nos désirs, on va dire, il faut que tu aies ça. C'est pas vrai. Dieu n'a jamais dit que j'ai besoin de ça. Dieu n'a jamais dit que j'ai besoin d'une Roy Rose pour marcher dans un Cadillac, pour se promener dans l'auto, dans le chemin. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que j'ai besoin d'un château pour vivre. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu m'a dit, au contraire, que si j'ai la nourriture, le vêtement, le boire,
ça fait bien du vêtement, ça.
Ça suffit. Mais ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais c'est la même chose dans le domaine spirituel. Dieu a des promesses pour nous.
Pourquoi il n'a pas dit ça? Oui, il disait les habits et manger.
La nourriture, les vêtements.
Oui, seulement. Pourquoi il n'a pas dit la place de dormir?
C'est parce que en Israël, c'était un pays chaud, puis c'était moins important comme aujourd'hui d'avoir une maison, parce qu'aujourd'hui, l'hiver, t'as pas le choix d'avoir une maison, parce que dans ce temps-là, c'est des tentes, puis il y avait des tentes. Des tentes suffisaient, parce que c'est un pays chaud, là, l'Israël, il n'y avait pas d'hiver, là. Mais ici, au Québec, t'as pas le choix d'avoir une maison, c'est parce que là, où c'est que tu vas aller l'hiver, là? Mais le vêtement, on pourrait dire, le vêtement, la maison rentre dans le vêtement, parce que à cause de l'hiver qu'on vit ici au Canada, ça prend pas juste un vêtement, ça prend une maison parce que tu auras beau avoir des bons vêtements, là, mais tu peux pas rester dehors tout l'hiver. Là. Mais tu vois que Dieu, mais ça c'était rien qu'un détail. Mais dans les choses spirituelles, c'est la même chose. Dieu veut qu'on apprenne à discerner c'est quoi qui nous appartient. Parce que le bon gérant, il va agir avec les choses qui appartiennent. Il n'agira pas avec les choses qui appartiennent pas. Toutes les choses qui appartiennent pas, Dieu dit, ferme ta porte. Désire pas ces choses-là. C'est pas à toi. Je les ai pas promis. Je te les ai pas dit que tu allais les avoir. Puis ils sont pas à toi. On va regarder dans 1 Corinthiens 3. Qu'est-ce qui nous appartient en tant que serviteur de Dieu? 1 Corinthiens 3. Versets 21 et à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Elle dit, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est à nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Puis tout appartient à Dieu. Dieu, c'est notre Père. Donc, si tout appartient à notre Père, ben tout est à nous aussi. C'est ça que Paul dit. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est les choses qui nous appartiennent en tant que chrétiens. Mais si vous remarquez, il y a des choses, il n'y a pas dit « Satan nous appartient ». Il n'y a pas dit les choses de Satan. Il n'y a pas dit la puissance de Satan. Toutes ces choses-là, ça ne nous appartient pas. Parce que Satan amène un autre royaume, c'est un autre Dieu qui agit dans ce monde. Puis son but, lui, c'est juste de contrecarrer les choses de Dieu. C'est pour ça que tout ce qui vient de Satan, on ne peut pas le recevoir. Ça nous appartient, mais il faut que ce soit Dieu lui-même qui nous les donne. C'est là qu'on arrive à la deuxième grande qualité du vrai administrateur. Pour pouvoir juste savoir ce qui nous appartient, mais il faut savoir aussi avoir la sagesse de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu donne. Puis dans quel temps qu'il veut le faire. Parce que c'est ça la sagesse de Dieu, c'est est-ce que Dieu veut faire cela maintenant? Ou est-ce que Dieu veut faire ça? Ou est-ce que Dieu veut faire ça? Mais comment qu'on va savoir? Si c'est seulement Dieu qui sait. Mais c'est important, si on veut bien gérer les choses de Dieu, d'avoir entendu, d'avoir reçu de Dieu comment faire les choses, quand les faire. C'est ça. La première, c'est qu'est-ce qui nous appartient, mais la deuxième chose, c'est quand les faire et comment les faire. C'est ça qu'on appelle la sagesse comme telle. C'est de savoir user des choses que Dieu nous donne avec une bonne dose, on pourrait dire. Parce que c'est comme si tu donnes un médicament à quelqu'un, puis tu en donnes trop, ben ça peut le tuer. Même si c'est une bonne chose que Dieu peut nous donner, si on n'est pas sage, puis l'utiliser sans excès, ben ça peut nous détruire, même si c'est Dieu qui nous l'a donné. Fait que c'est important d'éviter deux choses, l'excès, le trop, ou le pas assez, parce qu'il y a l'excès des deux côtés. Là. Il y a l'excès de manger, de boire, par exemple, une image de l'excès de manger, de boire. Dieu dit, oui, je veux te donner en abondance toutes choses, mais les excès de manger, de boire, c'est pas bon. Il faut savoir s'arrêter. Mais il y a aussi l'excès de ne pas assez
manger.
Parce que dans Timothée, dans Colossiens 2, verset 20, ça dit « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses deviennent pernicieuses par l'abus. » Autrement dit, si tu abuses dans l'excès de ne pas assez, de ne pas assez manger, de ne pas assez boire, si tu tombes dans l'excès de ne pas assez, ben, ça devient pernicieux par l'abus, puis ça devient comme un résultat de l'orgueil. Ça dit ça dans Colossiens 2, versets 20 à 21. Puis ça dit aussi dans 1 Timothée 4, les versets 1 à 3. 1 Timothée 4, verset 1 à 3, ça dit que dans les derniers jours, il va y avoir des faux docteurs qui prescriront des doctrines de démons, qui enseigneront aux hommes de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'il soit pris avec action de grâce. Ça veut dire qu'il y a un excès de ne pas assez. Il y a des doctrines de démons qui enseignent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris à l'action de grâce, puis de ne pas se marier. Ça veut dire que c'est comme un excès de pas assez. Mais ça aussi, en tant que serviteur de Dieu, on doit toujours apprendre la bonne dose, la sagesse que Dieu. Comment utiliser la chose, quand l'utiliser, puis avec quelle quantité. Quelle quantité utiliser cette chose-là? C'est comme ça qu'on peut grandir en sagesse puis en discernement. C'est comme ça que Dieu peut aussi nous partager ses trésors, sa promesse, sa parole, son logos. On a besoin de ce discernement-là, de cette sagesse-là. Puis il y a quelque chose de bien spécial là-dedans, c'est que quand je parlais de la convoitise, c'est la première chose du bon gérant, c'est de discerner ce qui appartient puis ce qui appartient pas, de refuser ce qui appartient pas puis de prendre juste ce qui appartient. Ben quand on regarde ça, le mot appartenir, c'est le même mot que sanctification, parce que sanctification ça veut dire mis à part, appartenir à Dieu. Le mot sanctification, c'est Dieu, c'est nous qui appartenons à Dieu, nous qui avons été mis à part pour Dieu, appartenir à Dieu. Parce qu'on appartient à Dieu, tout nous appartient. Mais on voit que c'est Jésus qui est notre sanctification. Ça dit ça dans 1 Corinthiens 1, verset 31. Jésus est notre justice, Jésus est notre sanctification, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous montrer ce qui nous appartient, parce qu'on y appartient. On ne s'appartient plus. Tout ce qu'on a, ça ne nous appartient plus. Jésus nous a racheté corps, âme et esprit. Fait que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, lui appartient. Mais c'est Jésus, notre sanctification. C'est lui qui nous montre les choses qui nous appartiennent dans son royaume à lui. Puis ensuite, ça dit que c'est Jésus-Christ, notre sagesse. Ça veut dire que c'est lui qui va nous montrer comment utiliser les choses, quand les faire, avec quelle quantité utiliser les choses. Parce qu'il veut être notre sagesse. Il veut que ce soit lui qui, lui-même, vienne nous apprendre à vivre. Parce que c'est son caractère, ça dit, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous sommes appelés à grandir à la stature, à la hauteur de Jésus-Christ. Mais comment c'est possible? C'est pas possible par nous autres-mêmes. C'est juste possible par son esprit. Hein? C'est possible par son esprit qui vient agir en nous. C'est lui qui va faire qu'on puisse grandir en sagesse, puis en grâce, puis en maturité devant lui.
Tout à l'heure, tu disais Jésus, notre sagesse, sanctification, c'est 1 Corinthiens 1, 30.
Ouais, c'est ça, 1 Corinthiens 1, 30. Puis on voit ces deux choses-là dans la vie de Joseph, justement. À un moment donné, quand Joseph a été revendu comme esclave, à un moment donné, il s'est dit qu'il est devenu serviteur de Potiphar. Puis là, Potiphar, il laissait tous les biens qu'il avait, il laissait ça entre ses mains, parce qu'il voyait que Joseph était un bon gérant des biens. Fait qu'il a tout laissé ses biens entre les mains de Joseph, puis il ne s'occupait plus de rien. Puis là, la bénédiction de Dieu reposait sur Potiphar à cause de Joseph. Mais là, Manès a dit que la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Et là, Joseph a dit, « Non, jamais je ferai un aussi grand péché contre l'Éternel. » Parce qu'il dit, « Mon maître m'a donné tous les biens, m'a donné la gérance de tous mes biens. » Mais il dit, « Toi, t'appartiens à Potiphar, puis j'ai rien, aucun droit sur toi. » Puis là, il voyait, Joseph avait le discernement, « Toi, tu m'appartiens pas. » Ça devient une convoitise.
C'est responsable
de tout. C'est ça, il était responsable. Il savait discerner les biens. Mon maître m'a établi gérant des biens, mais la femme de mon maître appartient à mon maître. Elle ne m'appartient pas. Ça fait que c'était comme. Il savait dire non à la convoitise. Joseph avait appris cette première qualité-là qu'on appelle le discernement de la sanctification, dans le sens. Il savait dire non à la convoitise. Parce que, sous la télévision, c'est plein, la convoitise. C'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est plein de ce que le diable, parce que la convoitise de la chair, ça dit que ça ne vient pas du Père. La convoitise des yeux, ça dit que ça ne vient pas du Père. Hein, ça dit ça dans Jean. Ces choses-là ne viennent pas du Père, mais ça vient du monde, ça vient de Satan. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie, ces trois choses que le diable vient mettre sous nos yeux, puis essayer de faire la guerre avec nous autres à ce sujet-là. Puis c'est très important, c'est pour ça que c'est si important en tant que chrétien de fermer la porte, parce que tu n'as pas d'autre choix. C'est comme Joseph a fait, il a dit non, il a renoncé, il a dit non, puis il s'est enfui. Il n'y a pas d'autre choix. Quand tu es face à la convoitise, tu fermes la porte. Puis c'est la même chose. La télévision est porteuse de plein de convoitises. Mm. Puis c'est important de faire attention. Même les postes de télévision normales comme Radio-Canada, TVA, c'est important parce que c'est plein de convoitises. D'autres, la seule chose qu'on se permet de regarder, c'est les nouvelles. Quelquefois des émissions d'information. Parce qu'il y a l'information qui est. C'est juste l'information, il n'y a pas de convoitise. Mais si tu regardes les téléromans, ces choses-là, c'est juste la convoitise. Mm. Les émissions pour enfants, c'est juste la convoitise. Même les commerciaux, les commerciales, là, les publicités, c'est juste la convoitise. Mm. Ça fait que c'est comme. Il faut savoir se protéger. Si on veut grandir en sagesse, il faut savoir dire non.
Ça, on va avoir des combats intérieurs.
Oui, parce que
ça fait la guerre à l'âme.
Parce que si on garde ces émissions-là, ben là, je veux pas, ça développe. On devient en guerre en dedans. Parce que là, la convoitise, elle, les tentations rentrent. Mais là, on met pas faut mettre une protection. Faut se mettre une protection autour de nous autres. Parce qu'on vit dans le monde. Le Seigneur nous a appelés à vivre dans le monde, mais en même temps, pas être l'esprit du monde, pas à permettre à cet esprit qui est dans le monde de venir prendre possession de notre pensée, de notre tête. C'est là-dedans, c'est dans nos pensées que le combat se fait, dans notre âme. C'est là qu'il faut garder la pureté de Dieu. Garder une distance de toutes ces convoitises-là. Puis c'est pour ça que il faut savoir contrôler la télévision. Savoir contrôler toutes ces choses-là.
Il faut que nous la contrôlions. Ouais,
c'est ça. Parce qu'il faut. Puis pour les enfants aussi, c'est très important, comme j'avais déjà expliqué. Mais il y a des émissions, il faut faire très attention parce que faut savoir fermer la télévision. Parce que les enfants sont encore plus. Les enfants vont prendre tout ce qui est présenté là, puis ils vont commencer à convoiter, puis ils vont penser à dire. « Ouais, mais maman, papa, j'ai besoin de ça. » Parce que là, ils ont vu ça à la télévision. « Maman, j'ai besoin de ça. » Ils ont vu ça à la télévision. Fait que là, ça va créer tous les besoins qui sont faux. Des faux besoins. Parce que c'est pas des vrais besoins. On n'a pas besoin de tout ce que la télévision nous présente. Là. C'est faux. Là. On n'a pas besoin de ça pour être heureux. C'est pas ça du tout. Ça dit bien, ça fait la guerre à l'âme. Donc, il y a une guerre, il y a un combat. C'est le combat de la foi. C'est le combat de garder nos pensées. De renouveler nos pensées, ça dit dans Romains 12, renouveler vos pensées avec la parole de Dieu. On n'a pas 56 moyens de renouveler nos pensées. C'est sûrement pas à regarder la télévision quand on renouvelle nos pensées. C'est avec la parole de Dieu, avec la prière, avec la louange, l'adoration. On peut mettre des.
Et la communion avec les frères et sœurs.
Communion avec les frères et sœurs. C'est comme ça, on se demeure dans les choses à l'Esprit de Dieu.
On est de passage ici, on n'est pas. C'est pas notre maison. Hein.
C'est très important. Parce que. Dieu ne peut pas nous confier rien s'il ne voit pas qu'on est ferme là-dessus, comme Joseph. Dieu a pu lui confier plus parce qu'il a vu que Joseph était ferme. Il a dit non, ça ne m'appartient pas. Il voulait juste que Dieu lui donnait ce que Dieu avait mis sur la table, mais tout ce qui appartenait au diable, non, j'en veux pas. Puis on voit aussi la deuxième qualité de Joseph, il était sage. Il savait bien administrer tout ce que Dieu lui a donné, il savait bien administrer. On le voit en Genèse 41, verset 33 à 36. Genèse 41, verset 33 à 36. Genèse 40.
41.
Genèse 41.
33 à 36.
Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Mais là, ça dit que Joseph il a proposé ça à Pharaon, mais là, Pharaon, il a regardé Joseph et il a dit, il n'y a pas d'homme aussi intelligent que Joseph. Fait que là, il a établi lui-même, il a établi Joseph parce qu'il voyait la sagesse en lui. Quelqu'un qui sait user les choses de Dieu avec sagesse. Pas d'une façon égoïste, précipitée, en pensant rien qu'à lui. Ou, non, d'une façon sage, comme Dieu les voit. Parce que ça, c'était la manière que Dieu voyait les choses. Dieu avait dit, il y a 7 années d'abondance qui viennent, ensuite 7 années de disette. Mais si vous voulez survivre pendant les 7 années de disette, ben, il vous faut faire des provisions, parce que vous ne passerez pas au travail. Puis Joseph avait reçu cette sagesse-là de Dieu. Il avait compris que c'était ça que ça voulait dire, les 7 années d'abondance, les 7 années de disette. Puis là, il a partagé à Pharaon ce que Dieu lui donnait. Puis là, Pharaon a reconnu que la sagesse de Dieu était sur Joseph. Puis là, il l'établit à sa suite. Mais on voit comment c'est important recevoir cette sagesse de Dieu. Savoir administrer les choses comme Dieu le veut, quand Dieu le veut, avec la quantité que Dieu le voulait. Parce que là, il dit, tu vas prendre un cinquième de toutes les 7 années d'abondance qu'il va y avoir, tu vas le mettre à part, tu vas en faire des provisions dans des greniers. Puis là, ça va suffire pour nourrir tout le peuple pendant les 7 années de disette qui s'en viennent. C'est sage. C'était le conseil de Dieu. Puis c'est la même chose. Dieu, il demande, pour manifester sa promesse à notre égard, qu'on grandisse en discernement, en sachant dire non à la convoitise, puis qu'on grandisse en sagesse, en sachant recevoir de Dieu le conseil qui vient de Dieu. Parce que dans tout ça, nous autres, on n'est rien là-dedans, là. C'est Jésus qui est notre sanctification. C'est Jésus qui est notre sagesse. Si on pense pouvoir administrer ça avec notre raison humaine, notre sagesse humaine, ça ne marche pas. Notre sagesse humaine va aller à la dérive, va aller en banqueroute, va aller à la faillite. Parce que la sagesse humaine, ça ne peut pas satisfaire le conseil de Dieu. Ça ne peut pas arriver au pied du conseil de Dieu. C'est pour ça que c'est si important de recevoir, de prendre le temps d'étudier la parole, de prendre le temps de prier, de chercher sa face pour recevoir le caractère de Dieu. Parce que le caractère de Dieu, vous nous a donné comment? Par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a le pouvoir de nous transformer de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Fait qu'il faut le recevoir, il faut prendre le temps de recevoir ça. Puis j'ai peut-être un dernier verset. Bon, je vais partager un dernier verset. C'est Lévitique, chapitre 16, les versets 7 à 10. Lévitique, chapitre 16, versets 7 à 10. Ça parle ici du jour des expiations. Il y a quelque chose d'assez spécial avec ça parce que en Israël, il y avait 7 fêtes. Et la première des fêtes en Israël, c'était la Pâque. Hein, la Pâque, ça nous parle de Jésus mort pour nous autres. Jésus, tout est accompli à la croix. C'est le début de tout, c'est la source de tout. C'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, c'est la première des fêtes, c'est la Pâque. Mais ici, le jour des explications que je vais citer, là, Ça, c'était la sixième fête. Puis ça parle du jour des expiations. Ça, il y avait sept grands fêtes que les Juifs devaient toutes célébrer. Puis la première des fêtes, c'était à chaque année, ouais, qui venait sept fêtes durant l'année. Puis la première des fêtes, c'était au premier mois, c'était le 14e jour du mois, c'était la Pâque. Puis il fallait qu'ils sacrifient un agneau. Puis ça symbolise Jésus-Christ. L'agneau était sacrifié, l'agneau pascal. Puis c'était cet agneau-là qui donnait la vie, qu'on mangeait. C'était son sang qui protégeait de l'exterminateur. Tout était au sujet de la Pâque. C'était le début de tout. Le début, la première des fêtes, puis c'est là la source. Christ a accompli tout à la croix. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, c'est le jour des expiations. Parce que il y avait sept fêtes. Chacune des fêtes, c'était Dieu ordonnait de se réjouir. C'était une grande, grande joie. Sauf le jour des expiations. Parce que le jour des expiations, Dieu ordonnait de s'humilier. C'était le contraire de toutes les autres fêtes. Il y avait quelque chose de spécial ce jour-là. Il disait, un jour où l'homme humilie son âme. Il va humilier son âme. Ça dit ça au verset 29 à 31.
Lévitique 16.
Oui, Lévitique 16, verset 29 à 31. Ça dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Ça dit bien, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. C'est très important. C'était la seule fête où c'était un jour d'humiliation. C'était drôle parce que c'était la sixième fête. Ça parle de maturité. Ça parle de grandir dans le Seigneur, mais au niveau de l'âme. Parce que il y a plein de choses là-dedans, là, mais à la Pâque, la première des fêtes, on sacrifiait un agneau. Au jour des expiations, l'agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau, c'est un animal doux et humble. C'était Jésus-Christ. Mais au jour des expiations, on sacrifiait deux boucs. Deux boucs, parce qu'il y a quelque chose de spécial. C'est que c'est comme ici, Jésus, pour nous faire participer, nous faire accomplir sa promesse pour nous, il est obligé de nous emmener à son image, à son caractère, à sa ressemblance. Ça parle ici de maturité parce que c'est les deux boucs qui sont là. Le bouc, c'est un peu une image de nous autres. On est des hommes, on est des personnes têtues. Un bouc, c'est un agneau, mais têtu. C'est-à-dire qu'il veut faire à sa tête. Puis là, le Seigneur, il donne une image. Si tu veux être parfait à l'image de Christ, il faut que ton âme, ta tête, soit crucifiée avec Christ. C'est une image. Mais il y avait deux boucs qui étaient offertes là. Pas rien qu'un bouc. Deux boucs. Puis encore là, une image, parce que un des boucs était tué, offert sur l'autel. L'autre des boucs n'était pas tué. L'autre des boucs était juste envoyé dans le désert vivant. On le chassait dans le désert pour ne plus jamais qu'il soit présent. Parce qu'on posait, avant de le chasser dans le désert, on posait ses mains sur ce bouc-là, puis on confessait nos péchés, puis on l'envoyait dans le désert pour chasser nos iniquités dans le désert. Mais c'est une image. C'est une image au niveau de notre âme. Parce que à cette fête-là, ça symbolisait, dans notre cœur, on a deux parties dans notre cœur. Il y a l'esprit et l'âme. L'esprit, notre esprit, a été crucifié avec Christ à la croix. À cause de Jésus, à cause de son œuvre à la croix, notre esprit, qui était corrompu par le péché, qui était souillé, sali, qui était empreint de la nature de péché, est mort aussi avec Christ à la croix. Il faut se saisir que nous sommes morts avec Christ à la croix et nous avons reçu un nouvel esprit, une nature de justice. Christ, notre justice. Il faut se saisir ça. C'est une première étape de maturation parce que tout chrétien qui veut ressembler à Christ, qui veut recevoir les mêmes bénéfices que Christ, doit devenir un dans sa mort. Notre esprit, on doit comprendre, saisir par révélation que notre esprit est mort avec Christ à la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est la première partie de j'ai été crucifié avec Christ. C'est mon esprit. Il est mort. Ma nature de péché est enlevée. Christ est mort pour mes péchés. Il me donne justice. Ça, c'est le premier bouc. Mais il y avait le deuxième bouc qui, lui, il n'était pas tué. Il restait vivant. Ça, ça parle de notre âme. Parce que quand on vient à Jésus, notre esprit meurt avec Jésus parce qu'il était souillé par le péché. Mais notre âme, elle, notre âme, c'est notre raison, notre intelligence, c'est nos sentiments, notre volonté. C'est ça, notre âme. Mais notre âme, elle, elle ne meurt pas. Elle est juste lavée. Elle est lavée par le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'elle est lavée par la parole. Parce que ça parle de notre pensée, de notre raison. Elle a besoin d'être lavée par la parole de Dieu. Mais il y avait une image qui était très forte ici, c'est que cette boucle-là qui était restée vivante devait être chassée dans le désert pour qu'on n'ait plus jamais entendu parler. Ouais. Qu'on n'entende plus jamais parler de ce boucle-là, de l'âme. Qu'on n'entende plus jamais parler, ce n'est plus moi qui vis. Mon âme, elle n'a plus raison de vivre. Elle n'a plus raison de décider quoi que ce soit. C'est ça, porter sa croix. Parce que là, c'est ça. Quand on dit d'envoyer son âme dans le désert, c'est de porter la croix. C'est le mourir à petit feu, parce que le bouc était envoyé au désert, et comme il mourait à petit feu, il mourait tranquillement. Mais c'est ça. Porter sa croix, c'est faire mourir son âme. C'est-à-dire, c'est de dire non à mes décisions personnelles. Dire non à mon discernement personnel. C'est pas moi. C'est pas moi qui va discerner c'est quoi qui est bien et mal. C'est Jésus, Christ, ma sanctification. C'est dire non à ma sagesse personnelle, à ma raison qui veut toujours diriger tout. Non, Christ, ma sagesse. Christ a été fait sagesse pour moi. C'est lui qui a pourvu une sagesse. Mais moi, je dois mourir. Je dois m'enlever du chemin. Je dois enlever mon âme, mes pensées rebelles, têtues. Je dois les enlever du chemin et les mettre à la croix. Les envoyer dans le désert une fois pour toutes. Plus jamais dans le chemin. Parce qu'il faut qu'ils soient enlevés du chemin si Dieu veut faire son œuvre en travers de nous. S'il veut accomplir sa promesse en nous, il faut que notre âme s'humilie. Notre âme disparaisse du chemin. Même au niveau des ressources, il faut apprendre que c'est Dieu qui va donner les ressources. Ce n'est pas avec ma raison que là, ma raison va réussir à trouver toutes les ressources, à suffire à moi-même. Non! Christ est ma ressource aussi. Christ est ma force. C'est lui qui va pouvoir, à sa manière, à son temps.
Si on lui fait confiance, puis si on y croit.
Si on lui fait confiance, on y croit. Mais pour lui faire confiance, il croit. Il faut que tu enlèves ton âme du chemin. Il faut que tu arrêtes de décider. Il faut que tu arrêtes de vouloir diriger Dieu. C'est Dieu qui doit être le seul maître à bord. C'est pour ça que ce bouc-là qui était notre âme, l'image, envoie-le dans le désert. Fais-le mourir. Qu'il ne soit plus question. C'est ça quand Jésus disait porter sa croix à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours, je dis non à ma pensée personnelle. Je dis non
à ma volonté.
À ma volonté. Je dis non
à ma destinée.
À ma raison qui veut toujours diriger toute chose.
Mes désirs.
À mes désirs. Non. Seigneur,
mes aspirations.
C'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis. C'est toi qui dois me donner ta sagesse. C'est toi qui me donner ta sanctification. C'est toi qui dois me donner tes ressources, ta force. C'était une belle image parce que c'était la sixième fête. C'était comme la fête juste. Envoie ton âme dans le désert si tu veux entrer dans la terre promise. C'était une image. Il faut que notre âme aille dans le désert, mourir, qu'elle ne soit plus, qu'elle apprenne à ne plus être, pour qu'on puisse entrer dans la terre promise. C'est une image, mais on ne peut pas entrer dans cette terre promise-là tant que l'âme est là dans le chemin. Tant que notre âme, on n'est pas capable de gérer. Parce que faut bien se rendre compte que dans la vie naturelle, on gère tout avec notre raison. Hein. C'est notre raison qui gère. Bon, là aujourd'hui, je vais faire ça. Ma raison gère ma vie présente. Mais quand on vient à Jésus, on doit faire mourir la raison. On doit avoir sa raison. Ça veut dire, il faut que ce soit lui qui dirige toute chose. Ça fait qu'il faut comme mourir à nous-mêmes, pour mettre ça de côté.
Pour que l'esprit prime.
Puis que ce soit vraiment lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Il faut qu'il prenne toute la place. Puis là, c'est comme ça qu'on accepte que notre âme aille dans le désert, qu'on accepte que notre âme porte sa croix tous les jours, puis qu'elle s'humilie, parce que c'est une image. Elle ne meurt pas. Ma raison va rester vivante. Mes désirs vont rester là. Ma sagesse, mon intelligence va rester. Il ne meurt pas, mon âme ne meurt pas. Je les fais comme mourir. Je les enlève sur le trône. Je les rends inopérants. C'est plus vous autres qui dirigez ma vie.
Je mets les selles de Christ en avant.
C'est ça. Je les mets dans le désert pour que ça soit vraiment toute la place à Jésus, à l'agneau. Là, sa promesse peut s'accomplir. Parce que, c'est comme je l'ai dit, c'est la seule fête qui était une fête d'humiliation. Parce qu'à quelque part, dans la maturité avec Christ, Dieu nous amène à s'humilier. C'est nécessaire. L'humilité précède la gloire. Il faut passer par là. Parce que tant que l'âme est encore dans le chemin, tant que le moi est encore dans le chemin, Dieu ne peut pas agir. C'est comme s'il y a un obstacle majeur. Il n'accordera pas des bénédictions parce que là, on est des bons gérants naturels. Non. Il faut apprendre à ne plus rien gérer. C'est ça que Dieu demande. Les vrais gérants que Dieu veut, c'est ceux qui ont appris à ne plus rien gérer,
mais qui s'en remettent à lui complètement.
Qui vont au conseil de Dieu, qui reçoivent le conseil de Dieu, la gérance de Dieu, la gouvernance de Dieu.
Dieu la source.
Dieu la source. Très important.
C'est toute une autre façon. Hein?
C'est archi important. Parce que c'est la marque de maturité. C'est de ne plus gérer, de ne plus être sur le trône. C'est de lui, ça, sur le trône. Ça, c'est la marque de maturité. C'est vraiment, Christ a vraiment pris, il a grandi en lui. Puis plus qu'il grandit, bien plus, moi, je deviens petit. Comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Fait que l'âme doit aller au désert. Là, Christ prend de plus en plus de place. Plus que Christ prend de la place, bien plus son amour remplit notre cœur, plus ses désirs, sa joie remplit notre cœur, ça abonde tellement que c'est ça, ça nous fait entrer dans la terre promise. Parce que là, Dieu peut être satisfait quand il nous regarde, il ne voit plus le gros moi qui essaie de s'enfler, il voit Christ. Il voit Christ en moi. Fait que là, ça lui fait plaisir. Là, il peut envoyer son logos, sa promesse sur nous.